Oxygène.
Oxygène.
Midi 13h30. Hashtag je reste chez moi. Benjamin Ducongé.
Voilà, et pendant toute la durée de confinement, et bien ici même sur Oxygène, nous vous informons à la fois de tout ce qui touche à la solidarité dans l'ensemble de nos départements, dans les Alpes-Maritimes, les Alpes de Haute-Provence, les Hautes-Alpes, l'Isère et les Savoies. Notre premier invité aujourd'hui, le député des Hautes-Alpes, Joël Giraud. Bonjour monsieur le député.
Bonjour.
Vous êtes donc en direct avec nous à travers les Alpes. Alors je le signale parce que vous êtes l'un des conseillers en matière de politique de la montagne auprès du président de la République Emmanuel Macron, et vous avez été également rapporteur du budget. On va donc parler de la politique de la montagne et du budget. Mais avant d'évoquer ces deux sujets, je voudrais votre sentiment plus personnel sur la situation exceptionnelle que nous vivons. 3 milliards de personnes à travers le monde confinées, une économie mondiale quasiment à l'arrêt. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Bah écoutez, c'est vrai qu'on a on a l'impression d'être dans une espèce de film de fiction de série B, mais malheureusement c'est pas une fiction de série B, c'est une réalité. C'est la preuve aussi que nos économies sont fragiles, que nos vies sont fragiles et qu'on n'a peut-être pas assez réfléchi à cela avant. D'un autre côté, c'est vrai que je vois au travers de cette situation des nouvelles solidarités qui se créent, qui se recréent. Et c'est peut-être aussi l'occasion de réfléchir sur nous-mêmes, sur la façon dont on fait évoluer la société. Et à toute chose, je dirais à tout malheur, correspond quelque chose de quelquefois positif. Mais pour l'instant, c'est une crise qu'il faut gérer. Et je dois dire que les citoyens sont globalement des citoyens très responsables. Alors je vois très, 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 très peu, enfin évidemment dans les Hautes-Alpes, c'est un peu un cas particulier parce que nous sommes dans des terres rurales et de montagne, mais je vois très, très peu de gens qui ne respectent pas les gestes barrières. Spontanément, on fait la queue à l'extérieur des magasins tant quand il y a quelqu'un à l'intérieur. Enfin, tout cela se gère de manière sympathique. On fait attention à nos voisins. C'est des moments qui sont difficiles et c'est des moments qui vont être surtout difficiles pour celles et ceux qui vont malheureusement perdre des gens de leur famille, des proches et autres. Moi, qui suis d'une famille franco-italienne, c'est malheureusement déjà le cas sur le côté italien. Et tout ce que j'espère aujourd'hui, et mon seul sentiment, c'est qu'il faut que nous évitions, en étant tous responsables et raisonnables, ce qui n'a pas toujours été le cas, il est vrai, dans les grandes villes, au tout début du confinement, que nous soyons tous demain en mesure d'inverser une courbe qui pourrait, si nous n'étions pas raisonnables, partir, j'irai de la même façon qu'en Italie, c'est-à-dire de manière tout à fait dramatique.
Est-ce que dans le département des Hautes-Alpes, les hôpitaux sont prêts ? Quelle est la situation sanitaire chez vous ?
Bah, écoutez, les hôpitaux sont très archi-prêts. Les lits de réanimation sont disponibles à l'heure actuelle. Il y a eu un très fort début d'épidémie chez nous. Notamment sur le Briançonnais, dans la mesure où beaucoup de gens avaient assisté au rassemblement protestant évangélique de 2012 et où il y a eu un début d'épidémie assez important sur le secteur Briançonnais. En revanche, ceux qui craignaient que la frontière italienne nous amène tous les maux, j'allais dire en sont pour leurs frais, puisque à la fois les mesures qui ont été prises, mais également le côté raisonnable de nos amis piémontais, fait que la situation n'a pas, entre guillemets, débordé depuis la frontière très très proche. Je rappelle que Briançon est à 10 kilomètres de la frontière italienne. Et le drame que vivent nos amis en Lombardie, mais également dans le Piémont, puisque en quelques semaines, on en est à 700 morts à Turin, n'a pas affecté cette zone de proximité, puisque j'habite pour ma part à côté de Briançon. Les hôpitaux ont suffisamment de dotations à quelques problèmes près. Je crois que le groupement hospitalier de territoire ici, qui est assez efficace, avec une direction qui concerne tout le département et une partie également des Alpes-de-Haute-Provence, a bien anticipé. Après, c'est la mobilisation des gens qu'il faut saluer sur le terrain, la mobilisation de tous. Il y a eu aussi des mesures de confinement prises très en amont de l'obligation par les établissements publics comme les EHPAD, qui font qu'aujourd'hui, on a moins de on a moins de difficultés dans les EHPAD que dans une partie de l'Est de la France, mais toujours du bois, parce qu'il suffit malheureusement d'une contamination pour
Oui.
qu'ensuite les choses deviennent assez dramatiques. Mais pour l'instant, je dirais la situation est maîtrisée, en espérant que cette fameuse courbe ne progresse pas trop, notamment celle des personnes admises en réanimation.
Joël Giraud, donc le député des Hautes-Alpes, est avec nous. On va évoquer à présent l'économie, notamment l'économie de la montagne. Alors, on a vu ici dans nos territoires de montagne la fermeture anticipée des stations de ski. Ça touche aussi beaucoup de petites entreprises, des commerces. Alors, comment pouvons-nous être sûrs que certains chefs d'entreprise ne vont pas se retrouver sur le bord de la route?
Il y a ce qui est spécifique à l'économie montagnarde et ce qui est, je dirais, le cas de toute l'économie au sens large du terme. Sur l'économie montagnarde, c'est vrai que moi j'étais intervenu très tôt en liaison d'ailleurs avec le syndicat majoritaire chez les saisonniers qui est Force ouvrière pour qu'on puisse faire en sorte que les gens qui ont vu leur contrat saisonnier s'interrompre ne soient pas pénalisés. Donc côté salarié, pour qu'il n'y ait pas une casse sociale importante. Le fait que ces contrats aient pu être prolongés de manière entre guillemets fictive jusqu'au 15 avril a permis d'éviter cela. Le report également des mesures dont j'avais demandé l'aménagement sur le chômage des saisonniers. Parce que vous savez, de Paris, on ne sait pas trop comment marche l'économie des stations de montagne. J'avais fait venir Muriel Pénicaud pour qu'elle comprenne la difficulté dans laquelle nous étions.
Alors
Donc,
justement, Joël
voilà.
Giraud,
Oui.
justement pour ceux qui ne connaissent pas cette spécificité, est-ce que vous pouvez nous rappeler quel était justement le projet du gouvernement à l'époque de modification?
En fait, c'est un système de calcul. Alors, qui part d'un principe que moi je comprends complètement, qui est de se dire en intersaison, il faut que les gens puissent travailler plutôt que d'avoir des régimes indemnitaires très favorables qui fait qu'ils n'ont pas intérêt à travailler. Alors ça, je le comprends bien. Je le comprends bien quand on est à proximité de zones de travail où il y a beaucoup je dirais, de possibilités. Et le problème, c'est que quand vous habitez au fin fond du Queyras, et qu'on vous dit de trouver du travail dans l'intersaison, l'intersaison, d'abord dans le Queyras, l'intersaison, il n'y a pas beaucoup d'intersaison. Je cite le Queyras, mais j'aurais pu citer beaucoup d'autres vallées de montagne. C'est-à-dire que la reprise du bâtiment ne se fait pas forcément à cette très tôt comme dans certaines zones de plaine. Et puis au-delà, on se retrouvait dans une situation paradoxale où les saisonniers, si vous voulez, qui sont des saisonniers que j'appelle les saisonniers sédentaires, c'est-à-dire ces gens qui habituellement font une saison d'hiver et puis une saison d'été, qui bon an mal an se retrouvent avec 6 mois de travail, se retrouvaient non indemnisés parce qu'on passait la durée donc qui était auparavant une durée de 4 mois
Oui.
de minimum de travail à une durée de 6 mois. Donc fatalement, si vous avez une durée minimale de 6 mois, les 6 mois vous n'y arrivez pas forcément. Parce que les saisons sont plus courtes, notamment en hiver, et nous avions tout un tas de gens qui allaient se retrouver, je dirais, en système de mini-indemnisation, voire en système de non-indemnisation du tout, s'ils étaient rentrés pour la première fois sur le marché du travail pour cette saison d'hiver.
Oui.
Donc tout ça est reporté au mois de septembre, et d'ici là, nous aurons le temps de négocier un statut que j'espère particulier pour que les gens qui vivent dans ces hautes vallées et qui font que ces Hautes-Vallées n'ont pas complètement disparu et qu'ils se sont sédentarisés dans ces Hautes-Vallées, puissent continuer à y vivre convenablement. C'est pas toujours facile de trouver du travail, mais pas une entreprise de BTP qui embauche 100% des saisonniers du tourisme hivernal dans des vallées qui sont des vallées contraintes par la géographie.
Joël Giraud, un mot sur l'inquiétude du monde agricole avec l'interdiction des marchés sur de nombreux territoires. On voit que, eh bien, les agriculteurs essaient de s'organiser de leur côté pour de la vente sur des circuits courts. Malgré tout, ils sont inquiets.
Oui, mais je crois que bon, le protocole qui a été signé entre l'État et les chambres d'agriculture au niveau national et qui décline au niveau local, bon, faut-il encore que tout le monde soit au courant? Moi, j'ai envoyé ce protocole à l'ensemble des maires de ma circonscription pour qu'ils comprennent quelles étaient les possibilités et les impossibilités. Je crois que ce protocole permet quand même, notamment dans les endroits qui sont privés de tout accès au supermarché, un certain nombre de dérogations. Bon, à partir de là, il faudra aussi que tout le monde soit très sérieux parce que Le confinement de certains marchés, vous le savez comme moi, quand on va sur un marché, c'est la convivialité du marché qui est appréciable. C'est de ne plus savoir qui est vraiment la personne qu'on doit servir en premier parce qu'il y a beaucoup de monde et que c'est vachement sympa. Bon, ça, il va falloir que tout cela soit réglé. Mais pour autant, il y a aussi des réseaux de citoyens solidaires qui ont mis en place des systèmes de collecte. Il y a, je vois, chez moi, je vais me servir pas très loin de mon domicile, dans une boucherie charcuterie traiteur, il y a des produits qui viennent des fromageries du coin pour les écouler. Moi, j'ai juste une inquiétude, pour être franc avec vous, sur la filière de l'agneau, parce que l'agneau, c'est pas considéré comme un produit je dirais banal, mais c'est plutôt un produit, entre guillemets, de luxe, alors que c'est un produit banal dans les zones de montagne. Le fait que les vacances de Pâques et notamment le week-end pascal vont être en dehors de, enfin pendant la période, pardonnez-moi, de
Du
confinement,
confinement,
va poser problème. Donc je pense que c'est sur la filière de l'agneau qu'il va falloir que nous regardions de très près et que nous suivions de très près la façon dont les montagnards, pour qui l'élevage ovin est bien évidemment le principal, puissent se sortir de cette crise-là encore. Et sinon, bien, nous mettrons en place de nouvelles aides. Et il y a déjà un prochain projet de loi de finances rectificative qui est prévu dans les quelques semaines qui viennent. Le président de la République l'a dit, l'Union européenne l'a dit. On fait sauter tous les verrous qui existaient au niveau budgétaire parce que l'important, c'est la survie de l'économie. Et c'est d'abord la survie des gens. C'est la raison pour laquelle les mesures barrières, j'insiste beaucoup là-dessus, mais il faut vraiment les respecter, sortir le moins possible de chez soi, même dans ce qui est autorisé, moins on sort et mieux on s'en sortira.
Alors Joël Giraud, on va en parler justement du budget. Je vais vous poser la question de manière un petit peu provoque. Est-ce que finalement les aides d'aujourd'hui ne sont pas les impôts de demain? Puisque pendant des années, on a vu des budgets durant lesquels on cherchait à tout prix des économies. Et puis là, on a un petit peu l'impression que les milliards tombent du ciel. Vous pouvez nous expliquer?
Les milliards ne tombent pas du ciel, mais c'est vrai qu'il y a des mesures qui faisaient que pour être dans la compétition internationale, on devait se contraindre, entre guillemets, à un certain nombre de choses, dont les déficits en particulier. Or, les déficits, vous avez écouté comme moi la présidente de la Commission européenne, et la fameuse barrière des 3% du produit intérieur brut, elle a sauté complètement, bah, en cette période de crise. Tout simplement parce qu'il y a un moment où, en situation normale, la règle du déficit qui doit être amenuisée chaque année est importante, mais en période de crise exceptionnelle, la seule solution, entre guillemets, c'est de faire de la dette. Et faire de la dette, c'est pas forcément les impôts de demain, c'est les impôts de demain, mais dans un laps de temps extrêmement important. C'est plutôt sur les générations futures que les questions se posent. Je note aussi que l'Union européenne n'a pas été inactive, et notamment le président français, le président Macron, qui en entend plus d'ailleurs que les instances européennes en ce moment sur ces sujets-là, s'est mis d'accord avec un certain nombre de dirigeants italiens et allemands notamment, pour que nous ayons un recours à l'emprunt qui soit un peu plus important. Donc, entre le déficit et le recours à l'emprunt, certes, vous allez me dire que ça pèse sur les générations futures, mais c'est aussi un pari parce que après une crise notamment comme celle-là qui contraint les gens dans leur vie sociale et autres, il y a toujours aussi un moment de reprise. On n'est pas du tout dans une crise qui était la crise structurelle, par exemple des banques, qui a plombé l'économie sans pour autant qu'il y ait derrière une reprise de l'économie mondiale extraordinaire. On est vraiment sur quelque chose de conjoncturel, quelque chose de dramatique. Et je reste persuadé que les rebonds que l'on voit, le président de la République employait le terme d'économie de guerre, et bien c'est un peu comme l'économie de guerre. Je reste persuadé que les Français, les Italiens, que je veux dire, je connais bien pour avoir presque la double nationalité, sont des gens qui vont rebondir et qui, malgré les drames, lorsqu'on sera sorti de tout cela, voudront à nouveau vivre et s'aimer.
Merci beaucoup, Joël Giraud,
Merci à vous.
député des Hautes-Alpes, d'avoir été avec nous.